une diminution du nombre d'élèves à la rentrée prochaine.
Un jour tout neuf.
Un grand bonheur d'être ici.
Brigitte Patient.
Tous les jours, de 5h à 6h, mon invité sur France Inter, c'est vous.
C'est exceptionnel de venir à France Inter tôt le matin, c'est un grand plaisir.
Alors si vous avez envie de passer de l'autre côté du poste, si vous avez envie de venir en studio pendant une heure pour ouvrir la journée sur France Inter, c'est très facile.
Appelez vite le 01 56 40 45 45 ou connectez-vous sur franceinter.com et laissez-nous un message.
Les auditeurs en ont rêvé, vous l'avez fait en gros.
5h, 6h. Un jour tout neuf, du lundi au vendredi, sur France Inter.
France Inter présente Woody Allen et son New Orleans Jazz Band. En concert unique à Paris, au Grand Rex, le 2 avril à 20h30.
But last night, on the back porch,
retrouvez Woody Allen dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Bonjour, je comprends pas tout ce procès qu'on fait à Michel Alliot-Marie. Quand vous montez dans la voiture de votre voisin parce que vous allez au même endroit que lui, qu'est-ce que vous faites? Du covoiturage. Vous sauvez la planète, vous économisez des énergies fossiles. Et ben elle, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle est montée dans l'avion de son pote. Bande de petits pervers qui voulaient voir autre chose derrière. C'est pas parce qu'on est copain avec un dictateur qu'on n'a pas le droit de faire de l'écologie. C'est Nicolas Hulot qui devrait la prendre en défense. Allez, bonne journée, salut.
Bonjour Daniel. Ce message est destiné à Madame Alliot-Marie, qui est désormais contrainte de passer ses vacances en Dordogne, je crois. Je lui recommande vivement d'oser s'aventurer dans le département voisin, la Corrèze. Pays de douces collines, de plateaux couverts de bruyères, de sources claires, de villages accueillants groupés autour de leurs fontaines ou de leur chaîne de la liberté 1848. Un village en particulier où je passe chaque année, Tarnac, et son hôtel très sympa, sa charmante petite église romane et aussi une petite épicerie tapis dans l'ombre, fort bien achalandée. C'était Françoise de Pontoise.
Bonjour Daniel Mermet, c'est Nicole de Tornac. Eh ben j'y étais à cette fameuse manif à Anduze. Et quand j'y suis allée, j'aurais jamais pensé que ça prendrait de telles proportions. Et oui, en fait, il y en a un qui a pété un plomb et c'était le chef. Et vraiment, c'est pas très sérieux. Ça a commencé très sympa, il y avait les gendarmes d'Anduze et les gendarmes d'Alès. Les gendarmes d'Anduze étaient très sympas. Ils nous ont laissé descendre le long de la voie, on discutait et tout, c'était très convivial presque. Et puis sur le bord du quai, là, il y avait quelques gendarmes d'Alès, venus défendre leur chère mère d'Alès. Et ils ont commencé à pousser les gens, Et puis tout d'un coup, ce mec a sorti sa bombe, là, et c'est allé assez vite, c'est allé même très vite, et là, j'avoue que j'ai eu peur, et tout de suite, on a senti la tension monter d'un cran. Eh bien, j'y étais, hein. Allez, au revoir.
Pedro. Non, Daniel, c'est pas gentil de le livrer au pilori du commandant Warrior de la gendarmerie du Gard, car c'est à lui qu'aujourd'hui tous les petits pays en but à la réforme générale des politiques publiques doivent d'avoir amené enfin leur juste cause au grand jour. Et d'ailleurs, je suis en mesure d'apporter ici même un scoop énorme, qui du coup obligera à mettre le répondeur de la bastille suisse sous scellé, désolé. Le dangereux agitateur venu d'extérieur et qui n'avait rien à faire là, pour reprendre les propos de M. Bonifacio, le maire d'Anduze, ce dangereux agitateur, c'est lui. Monsieur Warrior, commandant, infiltré dans la gendarmerie. Son mobile, sapé, la RGPP. Il faut absolument lui faire une souscription nationale pour ériger un arc de triomphe à cet homme, car avec une simple petite bombinette de lacrymo, il a réussi là où les milliers de manifs locales, de pétitions et de communiqués de presse avaient jusqu'ici échoué, rendre enfin le combat contre la RGPP public.
Celui qui ordonne la violence, voire la mort, celui qui exécute cette violence voit cette mort. En haut, un cerveau qui donne l'ordre de violenter autrui. En bas, un cerveau qui donne l'ordre à son bras, à sa main, de distribuer cette violence voit cette mort. Dans les deux cas, il y a présence de cerveau. Quand est-ce que l'on jugera et que l'on pénalisera à égalité le maître et la brute? Quand est-ce que l'on arrêtera de disculper les machines à taper et à écraser? Sous l'éternel prétexte, il ne faisait qu'exécuter les ordres. Il arrive parfois que le distributeur de violence soit à la fois un peu décideur et beaucoup exécutant. Là, ce fut le cas à Anduze. Le Rambo Warrior n'est pas un porteur de matraque basique. C'est un commandant de gendarmerie, un intermédiaire dans la chaîne de distribution, c'est le cas de le dire. Un demi-condamnable, ni en haut, ni en bas, au milieu. Et cela agace pour lui, car son nom n'a pas été écrit sur la plainte que cette dame a déposée. Une dame bénéficiaire du gazage dispensé par ce commandant, commandeur, commandé. C'était Jackie dans la Drôme.
Bonjour aux auditeurs de France Inter et un gros coup de gueule au ministère de l'Éducation qui souhaite nous retirer 5 postes de notre lycée. Alors je suis du lycée autogéré de Paris. Et oui, c'est un des lycées qui est vraiment très rare en France. On n'en a qu'un seul et il faudrait le préserver. Donc si on fait appel à vous, ça serait pour nous soutenir et nous aider un peu dans notre cause de vouloir garder notre lycée. Bye bye bye. Merci.
Bonjour, nous étions aujourd'hui 3 à 4 000 cadres et employés de la Sécu à manifester dans les rues de Paris. 3 à 4 000 qui sommes allés devant Lucrans, notre employeur, pour réclamer des augmentations de salaire. Ça fait plusieurs années que nous n'avons pas d'augmentation ou des broutilles. Et la baisse, au moins l'arrêt des baisses d'effectifs, puisque là aussi depuis 10-15 ans, les effectifs à la Sécu n'arrêtent pas d'être réduits. 3 à 4 000 qui venaient de Marseille, qui venaient de Lyon, qui venaient, j'ai vu, de la Moselle, j'ai vu de la Vienne, j'ai venu de Bretagne. Beaucoup de toutes les provinces sont montées à Paris. 3 à 4 000. Beaucoup de CRS aussi, beaucoup de CRS qui n'ont pas hésité d'ailleurs à utiliser les gaz lacrymogènes et quelques brutalités lorsque ça bougeait un peu trop ou ça criait un peu trop à leur goût. On n'a bien sûr rien obtenu si ce n'est l'ouverture de négociations. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est l'absence de journalistes. Et l'absence de nouvelles sur le sujet à France Inter, même à France Info, les autres radios, je les écoute pas, donc je ne sais pas. Donc, aucune nouvelle là-dessus, la Sécu n'existe pas, les salariés peuvent se battre, on n'en parle pas. Il y a sûrement des choses plus importantes à dire. Alors, si mon message peut passer à là-bas, si j'y suis, au moins ça informera les auditeurs de l'émission. Merci, c'était Pierre de Seine-et-Marne.
Annecy 2018, Annecy 2018, on n'entend que ça, pire qu'une pub pour Coca. Ah non, par pitié, pas de JO, c'est si joli, Annecy. Par miracle, on n'a pas eu ceux de Paris, s'il vous plaît, conservons cette chance, préservons Annecy, cette manie des JO. Il n'y a plus rien de ludique dans les jeux, et seules les dettes restent olympiques. JO, KO, kiff kiff bourricot. Albertville, on est toujours parmi. Atlanta est en ruine. Athènes aussi. Toutes les villes avec les JO sont à l'agonie. Alors, s'il vous plaît, pas Annecy. Bétonné, défiguré, ruiné. Voilà le podium des JO. Stop! En plus, c'est ridicule. Aux JO d'hiver, le comité impose la neige artificielle et une méga sécurité. Eh bien, faites-les à Roissy, vos saloperies de JO. Il y a des montagnes de neige remplies de glycol là-bas. Les athlètes descendent de l'avion direct et il n'y a plus qu'à pousser sur les bâtons. Et au niveau sécurité, les aéroports, c'est parfait. À part en Russie, hein. Mais s'il vous plaît, pas Annecy, c'est trop joli. D'ailleurs, n'importe quelle ville, c'est beau sans JO. Et la montagne, c'est tellement mieux hors compétition. Alors allez jouer loin du lac, suspendez votre vol organisé. Partout ailleurs, ça fera bien mieux. Oubliez les heureux et d'Annecy, de la montagne, les véritables amoureux. En un mot, oui au beau, non au JO. C'était un message de Pascal, de Lyon.
Il est efficace, notre Pascal de Lyon. Merci à tous. Pour tous ces messages, chers AMG, beaucoup de messages quand même sur le répondeur, sur la page France Inter, là-bas, si j'y suis, au sujet du reportage d'hier à Anduze, avec le gazage, entre guillemets, des paisibles manifestants. Et ça nous a valu un message un petit peu étonnant d'un auditeur qui est gendarme. On a tout à fait possible hein, qu'on ait des auditeurs qui soient gendarmes. Et il dit « Je suis gendarme de gauche. » Et oui, ça existe. Et j'ai une opinion sur cette histoire de ce gendarme, donc ce confrère, ce collègue, ce camarade, dit-il. Il nous apprend que les gendarmes, entre eux, s'appellent camarades. Même si on n'est pas communiste, dit-il. Et donc, mes premiers sentiments ont été la honte et l'indignation. Indigné que l'on traite ainsi des citoyens qui manifestent, on ne peut plus paisiblement. Honte de et pour ces gendarmes qui grave encore un peu plus dans la conscience collective l'image du Pandore borné et brutal, honte de cet officier qui n'est que la caricature de ce qu'il croit être un défenseur de la loi et de l'ordre public. Voilà, donc très bien, sauf que, et notre auditeur avance dans son long message, sauf, dit-il, qu'il y avait le sous-préfet dans le train. Et là, ça change tout. Tu vois, toi, le sous-préfet, descendre du train et remonter dans sa voiture la queue entre les jambes et annoncer au préfet qu'il n'a pas pu ou pas su faire respecter la loi et l'ordre public sur sa circonscription. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on appelle le commandant de compagnie qui est là et que l'on connaît bien et on lui demande qu'est-ce qu'il attend pour faire respecter l'ordre. On n'a même pas besoin de lui dire que s'il ne le fait pas, sa carrière va s'en ressentir et il le sait. Alors, sur les images, on voit qu'il est embêté, ce garçon. Il s'agit évidemment du gendarme, le commandant Gazer. Il vient serrer la main des élus en tête de cortège avec un sourire suppliant. On voit même que ces hommes essaient de faire bouger les manifestants avec une certaine douceur, au début, mais ça ne marche pas, bien sûr, etc., etc. Et donc, la conclusion de notre auditeur, de notre gendarme d'auditeur, c'est l'officier a gazé deux choses, des manifestants et sa carrière. J'ai toujours honte, je suis toujours indigné, même sans Stéphane Hessel que j'ai lu, on peut être gendarme et un peu cultivé. Ouais, 29 pages, je sais que c'est pas beaucoup. Mais j'ai aussi pitié de ce petit commandant, peut-être au demeurant un type très sympa dans le civil, bon père de famille et bon époux, mais qui va être broyé par la même machine qui lui a appris à obéir. Voilà, donc solidarité professionnelle d'un auditeur gendarme à cet autre gendarme, Warion, que évidemment les auditeurs ne manquent pas d'appeler Warrior. Et voilà, compréhension professionnelle, donc responsabilité à voir du côté des donneurs d'ordre et éternelle histoire de celui qui les exécute ou qui les exécute pas. Pouvait-il faire autrement que d'exécuter des ordres imbéciles? Ça me semble toujours une possibilité. Voilà, enfin, en tout cas, un des passionnant. Et puis, il y a aussi que cette histoire, très franchement, vous avez compris que nous, parigots que nous sommes, nous ne comprenons pas forcément ces enjeux, mais beaucoup de messages nous ont invités à comprendre et nous ont donné envie de mieux comprendre ces enjeux qui sont des histoires territoriales extrêmement importantes pour l'aménagement de notre territoire. Aujourd'hui, on va retrouver comme chaque mois, dans la base, j'y suis, l'équipe du Monde Diplomatique, qu'on enregistre désormais à la Java, à Paris. Il y a avec nous Alain Grèche, Philippe Baquet, Olivier Piau et Maurice Lemoine. On va beaucoup parler, vous vous en doutez, de la Tunisie, de l'Égypte. On essaiera de parler un peu de bio, la culture industrielle, l'agriculture industrielle bio. Et puis, avec Maurice Lemoine, on parlera des liens, des relations entre le Proche-Orient et l'Amérique latine. L'Amérique latine et la Palestine, Israël et l'Amérique latine. Et puis, on avait parmi nos auditeurs hier les élèves du lycée Nobel de Clichy-sous-Bois qui étaient là très attentifs et qui ont pu, à l'issue de cet enregistrement, poser des questions à l'équipe du Monde Diplomatique. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37. J'oublie de remercier les auditeurs qui ont fait suite à mon appel, à mon avis d'appel hier, qui est de Médiamétrie. On s'intéresse au fonctionnement de Médiamétrie. Donc, si vous avez été interrogé par Médiamétrie, soyez gentil de nous le faire savoir sur le répondeur, au 01 56 40 37 37, ou sur le mail de l'émission, daniel.mermet@radiofrance.com. Si vous avez été interrogé, ou bien si vous êtes vous-même enquêteur. Ça, c'est intéressant aussi de savoir un petit peu comment ça fonctionne. C'est un fonctionnement assez opaque, Médiamétrie, même très opaque, mais avec des résultats qui sont extrêmement importants pour les médias. Voilà pourquoi nous sommes intéressés. Le diplo, dans un instant, et tout de suite, encore quelques messages au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous les AMG du Bocage, Domfronté et d'ailleurs. Ici, c'est Patrice de Domfront qui vous informe de la tenue à 20h30 ce jeudi 10 du repère de février au café-restaurant Le Goût des Autres à Saint-Georges-de-Roualais dans le Sud-Manche. Nous débattrons en toute modestie autour du livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Les repères de notre Bocage Sud auront lieu dorénavant les deuxièmes jeudis du mois. Alors rendez-vous à tous ceux qui veulent s'indigner avec nous. Ce jeudi 10 février à 20h30 au Goût des Autres à Saint-Georges-de-Roualais. À bientôt.
Aujourd'hui, la grande majorité des enseignants du lycée professionnel Lavoisier de Méru dans l'Oise sont en grève. Notre lycée, pourtant en zone sensible, subit des pertes inacceptables de moyens pour la rentrée 2011, à savoir une dizaine de postes d'enseignants supprimés, des effectifs de classe surchargés. Cela signe la mise à mort d'un établissement indispensable à la jeunesse du sud de l'Oise. Delphine, enseignante mécontente du lycée, je vous remercie.
Un message pour le repère de Pouersurance, qui aura lieu le jeudi 10 février à 20h au café La Dame de Nage. Le thème retenu pour cette rencontre est « De la croissance à la décroissance, des idées près de chez vous, des idées près de chez nous ». On vous attend pour échanger et partager sur ce sujet. Donc je répète, le jeudi 10 février à 20h à La Dame de Nage à Pouers. Un clin d'œil à mes amis de Porquerolles sur leur bateau qui se reconnaîtront sur le sujet évoqué, en particulier concernant un vieux moteur de bateau qu'ils tentent de faire durer. C'est aussi ça, la décroissance. À bientôt. Au revoir.
Pour ceux qui sont du côté de Grasse, le vendredi 11 à Péménade, dans les Alpes-Maritimes, il y a une réunion débat à propos du projet d'incinérateur qu'ils veulent mettre sur Grasse. Donc vendredi 11 à Péménade, dans les Alpes-Maritimes, pour lutter contre l'incinérateur. Et ce soir à Aix, demain à Marseille et vendredi 11 à Draguignan, Hervé Kems pour parler de l'oligarchie. Ciao, vive, portez-vous bien. Et l'Islande à l'occasion, Daniel, si tu as le temps. Merci, vive.
Bonjour Daniel. Ben, je voulais juste te dire un truc marrant. J'ai fichu en l'air ma carte de téléphone mobile et puis ça m'a amené à me dire « Merde, j'ai perdu tous mes numéros de téléphone de mes amis, etc. » J'ai réfléchi, quels sont les numéros de téléphone que je connais par cœur? Il y a mes parents, mon frère, mon copain, ma meilleure amie et le répondeur de là-bas si j'y suis. J'en connais pas d'autres. Alors tu vois, tu fais partie de la famille, t'es très proche. Merci pour toutes tes émissions. Bye bye.
Salut, c'est la Bassi, j'y suis depuis la Java à Paris avec l'équipe du monde diplomatique et Amazir Kateb à la musique. Merci, Amazir Kateb. Voilà, donc nous voilà avec le numéro de février du Monde diplomatique. Et ça vous étonnera pas si l'essentiel de ce numéro est consacré aux événements de Tunisie et aussi en partie d'Égypte. Pour en parler, on a Alain Grech qui connaît bien ces régions-là depuis très longtemps. On a également Maurice Lemoine qui connaît plus l'Amérique latine que la Palestine, mais on fera un lien entre la Palestine et l'Amérique latine, puisqu'un certain nombre de pays d'Amérique latine reconnaissent la Palestine dans les frontières de 67, et Maurice nous dira comment et pourquoi. Et puis on va commencer avec Olivier Piot en Tunisie, il est reporter, le diplôme favorise de plus en plus les reportages et on trouve ça très bien. Olivier, dans le papier qu'il donne ce mois-ci dans le Diplo, replace les choses un peu dans leur contexte et dans leur déroulement. Il y a un moment, il y a l'événement, bien évidemment, qui surgit, on ne sait pas d'où. Il y a un effet de surprise, suivi, là, en l'occurrence, d'un effet d'emballement, d'engouement médiatique. Mais enfin, il y a souvent des causes et des origines et un déroulement à tout ça. Et c'est ce que Olivier Piot raconte dans ce papier.
Alors, je suis arrivé le 6 janvier au matin, c'est-à-dire juste le lendemain de l'enterrement de Mohamed Bouazizi. Évidemment, comme toujours en Tunisie, et depuis longtemps, il n'y a rien dans la presse, il n'y a rien dans les radios. Il n'y a encore que quelques endroits qui sont bousculés par des heurts violents avec la police. Alors, c'est essentiellement le gouvernorat de Sidi Bouzid, du 17 au 28 décembre. Puis, tout début janvier, c'est encore autour de ce gouvernorat, pour des raisons d'indignation sur l'acte et le suicide de ce jeune qui fait partie d'une tribu, parce que les tribus jouent un rôle encore important dans cette région du centre et de l'ouest de la Tunisie, la tribu des Bouazizi. Et donc, il est connu, son nom est connu, il est connu à Sidi Bouzid, sa famille est connue, il est connu autour. Quand j'arrive le 6 janvier, cette vague d'indignation a déjà donné lieu à presque une dizaine de morts dans ce gouvernorat, des arrestations et un effet cumulatif, violence avec la police, arrestations, etc. Donc le 6 janvier, c'est le début aussi de l'extension de la révolte sociale. C'est-à-dire qu'on passe de l'indignation, je dirais, de proximité dans ce gouvernorat, à une révolte sociale qui commence à s'étendre un peu plus au nord-ouest, dans les villes de Kasserine, Tala, qui sont des villes où le chômage des jeunes, pas seulement des jeunes diplômés, puisque l'État tunisien a fait des gros efforts sur la scolarisation des jeunes jusqu'au bac. Sur le 1,5 million de jeunes qui ont entre 19 et 25 ans, les jeunes diplômés au-dessus du bac, c'est seulement un quart. Donc les trois quarts n'ont que le bac. Et assez rapidement, dès le 7, il y a un deuxième jeune qui s'immole, Ahmed Laoui. Alors on est toujours dans la même zone. C'est le grand bassin des mines de phosphate qui ont dégraissé en 15 ans quasiment les trois quarts de leurs effectifs. Donc Metlaoui, c'est aussi une ville où il y a un chômage très fort, qui fournit depuis 10 ans une bonne partie de l'immigration clandestine des jeunes Tunisiens.
Via l'Italie.
Voilà, en Italie, via le Nord, le Cap-Bon ou via la Libye. Je dirais que jusqu'au 10-11 janvier, c'est très difficile... Même si beaucoup de choses passent sur France 24, Al Jazeera, si tout le monde voit ces images, c'est très difficile de discuter de ce qui se passe. Et la chape de plomb est vraiment très forte. On ne prononce pas le nom de Ben Ali. On discute éventuellement de ces jeunes qui s'insurgent.
Il faut dire que les flics sont partout. Vous êtes fliqués, les flics sont fliqués par des flics. Enfin...
Les flics sont partout et Ben Ali, à l'époque, et son entourage pensent gagner la bataille de l'information. C'est-à-dire qu'ils ont déjà censuré YouTube... Les journalistes étrangers ne sont pas en Tunisie. Les premiers arriveront le 10. Donc, personne n'imagine encore que l'extension de cet incendie du gouvernorat de Sidi Bouzid aux villes du centre et de l'ouest va déboucher sur...
Qu'est-ce qui se passe à Tunis à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un lien entre les uns et les autres?
Oui, il y a un lien parce que les militants d'opposition, en tout cas, je pense à deux mouvements. Je pense à Etadjid et au PDP, qui sont donc deux mouvements de l'opposition légale, hein. C'est des deux partis légalisés, et l'UGTT,
le syndicat unique
en Tunisie. Mais dès qu'on sort de ces noyaux militants, là par contre, c'était beaucoup plus difficile de discuter jusqu'au 11. Parce que le 11, pour moi, c'est un des tournants. C'est les premières émeutes à Tunis.
C'est le 11, c'est le discours. Ben Ali fait ce discours.
Le 10. Il fait un discours le 10.
C'est ça, le 10.
Où il promet les emplois.
C'est ça. Et c'est là où le Figaro dit c'est formidable, il a
voilà,
trouvé la solution.
C'est là où le Figaro, absolument, j'ai lu le
plante d'une façon sur place, absolument formidable.
Oui. Donc il fait cet effet d'annonce, mais qui tombe complètement à plat, qui même renforce les Tunisiens dans l'idée que, décidément, il n'a rien compris. Et surtout, c'est l'annonce, le 12, par l'UGTT qui jusqu'ici n'a quasiment pas pris position. Ils ont simplement jugé légitime le mouvement le 11, c'est tout. Le 12, ils appellent à la grève générale, à Sfax, à Kairouan et à Tozeur. Et dans cette grève générale, on voit les classes moyennes, professeurs, avocats, qu'on a vu par ailleurs, il y a eu des manifestations d'avocats. Donc on voit des catégories qui jusqu'à maintenant étaient observatrices de ce mouvement social des quartiers populaires, qui tout d'un coup, notamment eu égard à la répression policière, parce que c'est ça qui a circulé, les fameux snipers de Kasserine, etc., qui là...
C'était vrai cette histoire des snipers qui,
ah oui.
qui choisissaient des cibles
ah oui,
dans les manifestants.
Non seulement c'est vrai, mais en partant moi sur Paris le 13, avec l'avion d'Air France de midi, j'ai croisé 12 militaires avec des grandes mallettes noires et des petites mallettes marron. et j'ai eu la chance de me faire expliquer la scène par un ancien militaire français qui était dans l'aéroport, qui prenait le même avion que moi et qui m'a dit, sans hésiter, je les connais, ils viennent d'Afrique du Sud.
Ah, donc c'est des mercenaires, c'était pas des militaires français quand même.
Ah non, j'ai pas dit que c'était des militaires français. Ça fait partie de ces officines privées, dont beaucoup sont formées en Afrique du Sud, et qui sont payées par tel ou tel chef d'État, parce qu'à tel ou tel moment, c'est utile d'avoir recours à ces méthodes de répression.
Alain Grèche, pourquoi maintenant la Tunisie ?
Écoutez, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question. C'est-à-dire qu'on peut dire, en Tunisie comme en Égypte, tous les ingrédients de la révolte sont là depuis au moins une dizaine d'années. C'est-à-dire des pouvoirs autoritaires, dictatoriaux, qui ne laissent aucune place aux citoyens, une situation économique et sociale qui n'arrête pas de se détériorer, et un mépris de l'État pour les citoyens. C'est-à-dire l'arbitraire total. L'exemple qui a servi d'étincelle, c'est justement un petit arbitraire local d'un policier, d'un agent municipal contre un marchand de quatre saisons. Ça, c'est des choses que les pays du monde arabe vivent quotidiennement. Et à un moment, il y a une étincelle qui fait qu'on n'en peut plus. Alors, bien sûr, ça a été préparé par des mouvements sociaux. On a parlé en Tunisie, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux. À Gafsa, il y a eu des luttes sociales. En Égypte, depuis 5-6 ans, il y a des mouvements dans la classe ouvrière les plus importants qu'il y ait eu depuis les années 50. Tout ça est vrai, mais il y a un moment où ça se cristallise. Et je crois que beaucoup, enfin, en Tunisie comme en Égypte, ça se cristallise autour de l'idée de la dignité. Nous voulons retrouver une dignité. Nous avons assez d'être traités comme des moins que rien, de n'avoir aucun droit, de pouvoir être arrêtés, torturés. Pas forcément d'ailleurs pour des raisons politiques. Le jeune marchand des quatre saisons, c'était simplement l'arbitraire quotidien. Et en Égypte, c'est pareil. Des fois, c'est pour des raisons politiques et des fois, c'est parce qu'il y a un arbitraire policier. Il y a quelques mois, il y a justement un incident qui avait suscité beaucoup d'émotions à Alexandrie. C'est un jeune qui avait été arrêté par la police, battu, ce qui est très courant dans les commissariats égyptiens, et qui était mort. Donc voilà tout ce qui fait qu'à un moment, ça se déclenche. C'est difficile à dire, comme tout mouvement historique, on peut dire qu'il y a les ingrédients. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit déclenché, mais c'est aussi le fait que ça s'étende. Et là, il y a un autre élément qui joue.
Et que ça se structure, ce que dit Olivier Piot, c'est que grâce à ce syndicat, ça réussit à se structurer.
Oui, mais en Égypte, il y a aussi un syndicat unique, mais alors qui est vraiment, lui, caporalisé. Il n'a pas du tout les traditions de l'UGTT. Et en Égypte, ça s'est auto-structuré à partir de ces mouvements dont j'ai parlé. On vous a beaucoup parlé du mouvement du 6 avril 2008, qui avait lancé la première appel à la manifestation, etc. C'était un mouvement de jeunes qui s'était structuré en un appui aux ouvriers de Mahal al-Kobra, qui est un des grands centres ouvriers, qui était en lutte. Donc il y avait évidemment une certaine expérience qui s'était créée, mais en plus, le fait qu'on ait pu vivre ça en direct, grâce essentiellement à Al Jazeera, mais aussi à d'autres, de voir les images qui circulaient, etc., ça a eu un effet effectivement mobilisateur. Et puis une autre chose, c'est qu'il faut rappeler que ce monde arabe est un monde immobile depuis 30 ans. C'est la seule région du monde où il n'y a eu aucun changement politique important depuis les années 60. En Amérique latine, vous avez eu la chute des dictatures. En Afrique, il y a eu une forme de multipartisme. En Asie, vous avez eu la chute de l'Indonésie, etc. Vous avez eu les mouvements en Europe de l'Est. Tout ça, la seule région où on a les mêmes au pouvoir ou leurs enfants, c'est le monde arabe. Donc là, il y a quand même une exception. Et la Tunisie a montré que ce qui apparaissait vraiment impossible était possible. C'est-à-dire qu'on pouvait se débarrasser d'un chef d'État qui avait tous les pouvoirs, qui semblait inamovible, qui semblait solide. Non, c'est possible. Et la force du mouvement égyptien le prouve. Et ça a des effets d'entraînement, même si il faut pas penser que ça va se passer de la même manière dans chaque pays, parce que chaque pays arabe a une situation particulière, parce qu'il y a le conflit israélo-palestinien qui pèse, parce qu'il y a des problèmes ethniques ou tribaux qui peuvent exister. Bon, il y a plein de choses qui font que chaque pays sera particulier. Mais si effectivement l'Égypte bascule, je pense que ça aura un effet d'entraînement très important sur l'ensemble du monde arabe.
Alors vous allez pouvoir poser des questions, mais auparavant, Amazir Kateb.
—
dirais pas combien de journées sans repas. Il y a des aveux inavouables à confier au vent de sable, à confier au vent de sable, à la forêt, à la rivière. Je dédie nos insurrections et je maudis vos meurtrières prières et vos odeurs de couvent, et vos odeurs de couvent. La France est une femme sans histoire qui raconte des histoires sans souffrance. Madame a fait souffrir le monde, Madame fait encore souffrir le monde. La France est une femme sans histoire qui raconte des histoires de Côte d'Ivoire. La France, quelle histoire! Le silence ici banal égale que le beuglement du monde qui dans les rues meurt par les balles et revit en rumeur de scandale sous les étoiles et dans la poussière. L'Amérique est une femme sans histoire qui raconte des histoires à qui veut croire. Madame a fait souffrir le monde, Madame fait encore souffrir le monde. L'Amérique est une femme sans histoire qui aime faire son shopping à Bagdad le soir. L'Amérique, quelle histoire! Les malheurs aujourd'hui sont à vendre aux marchands d'armes de scoop et de peur qui, à coups d'axe du mal et de terreur, nous imposent leur nouvelle cabale et nous rendent complices et conspirateurs. Nous imposent leur nouvelle cabale et nous rendent complices et conspirateurs. Israël est une femme sans histoire qui raconte des histoires coloniales. Madame a fait souffrir le monde, Madame fait encore souffrir le monde. Israël est une femme sans histoire qui se mure et se cache derrière sa halle. Israël, quelle histoire! L'arabe est un homme sans histoire qui raconte des histoires féodales. Monsieur se prend pour un monde à part, Monsieur veut couper les arabes du monde. Il noie le poisson dans du pétrole et prêche le poison en terre d'islam et prêche le poison en terre d'islam et prêche le poison en terre d'islam. Le monde arabe, misère noire.
Merci. Alain Grech, vous nous disiez que ces pays arabes avaient été immobiles pendant toutes ces années, comparés à d'autres parties du monde. Ils étaient tellement immobiles que certains, même beaucoup, ont fini par penser que ces peuples étaient inaccessibles à la démocratie, presque par nature, par culture, mais enfin par nature, au point que la théorie de la guerre des civilisations, que c'était eux et puis il y avait nous, qu'on avait de l'autre côté des barbares qui n'étaient pas accessibles à autre chose que cette sorte de stagnation dans laquelle ils étaient, devait perdurer. Or, ce qui se passe quand même avec cet éveil, cet impossible qui est advenu en Tunisie et comme en Égypte actuellement, renverse complètement cette baliverne, fait que c'est un mur qui s'effondre.
Oui, je crois que il y a une aspiration très forte à la démocratie qui est une aspiration universelle, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une aspiration au même modèle partout. C'est très intéressant de regarder les sondages sur les opinions dans le monde arabe et musulman à l'égard des États-Unis. Il y a deux choses, je dirais, presque contradictoires, c'est-à-dire un rejet total de la politique américaine et une vraie admiration pour les idéaux que représentent les États-Unis, c'est-à-dire ce qu'ils pensent être la liberté, la démocratie, le droit à exprimer son opinion, etc. Donc il y a effectivement une nouvelle génération qui peut être à la fois avoir envie d'avoir des libertés individuelles, collectives, etc., et en même temps de rester profondément attaché à son pays, au nationalisme, à son identité. Et il n'y a pas une contradiction entre les deux termes.
J'avais promis que vous pourriez poser des questions. On est déjà reparti dans la suite. Oui.
J'ai entendu, je ne saurais plus dire à quel moment, par qui, etc. Mais au sujet de la Tunisie, que en fait, si Ben Ali était parti, c'était aussi parce que, outre le mouvement social indéniable que plus personne ne pouvait masquer maintenant, il y avait une révolution de palais aussi. Et donc j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus.
C'est intéressant votre question là, parce que on a un auditeur qui laisse souvent des messages sur le répondeur, qui est Claude, et qui laisse toujours des messages très intéressants. Et là, il en a laissé en disant, oui, bon, c'est bien beau, cette émotion, le peuple qui bouge, et le jasmin, etc. Bon, la liberté ne vient, la démocratie ne vient que lorsque les puissances et les puissants la concèdent. Et alors, ça a fait un tollé sur le répondeur. On a eu des quantités de messages pour dire « Mais pas du tout! Mais non! Ce peuple tunisien est génial! C'est le peuple qui fait l'histoire et non pas ceux qui, d'ordinaire, tirent les ficelles. » C'est un vieux thème, bien évidemment. Hein, mais j'allais dire, c'est heureux d'avoir à nouveau à en débattre. Le point de vue d'Alain Grech là-dessus?
Je crois que les deux ne sont pas incompatibles. Un régime tombe quand il se fissure de l'intérieur, mais il se fissure de l'intérieur sous la pression. Le problème est de savoir, et c'est intéressant parce que l'Égypte est un cas d'espèce intéressant, jusqu'où va ces fissures? Est-ce que c'est simplement un replâtrage pour gagner du temps ou est-ce qu'il y a un changement quand même radical, même si ce n'est pas forcément une révolution? Donc c'est ça l'enjeu. Ce qui est important dans ce qui s'est passé en Tunisie, bien sûr, il y a un moment où une partie des élites ont dit « Ben Ali, ça suffit ». Mais ça ne s'est pas arrêté là. Moi, je pense qu'une des choses les plus importantes qui se passe en Tunisie, c'est le fait qu'on va sans doute vers la dissolution du RCD, c'est-à-dire d'une espèce de parti-État qui était le cœur de l'administration. Et d'une certaine manière, ça crée des éléments irréversibles. Mais comme toute révolution, elle a une histoire, elle a des contradictions aussi. Je veux dire, les gens qui sont entrés en lutte contre Ben Ali n'ont pas tous les mêmes intérêts.
Ah non.
On voit bien les interviews de tous ces franco-tunisiens, hommes d'affaires qui ont été là-bas, qui sont devenus ministres, qui ont une vision totalement libérale de ce qu'il faut faire en Tunisie. Bon, c'est évident que ce n'est pas la position, sans doute, de l'UGTT ou des forces ouvrières. Donc, je pense pas qu'il y ait une contradiction. C'est rare qu'il y ait une révolution qui se passe avec un effondrement total des puissants. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais effectivement, c'est un mouvement qui se développe. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, ça se joue en Égypte. La question est de savoir jusqu'où on va. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'en Égypte, c'est réversible. C'est-à-dire qu'on peut arriver à une situation où le pouvoir cède un certain nombre de choses, y compris peut-être avec Moubarak qui s'en va, et où dans 2 mois, il y a un retour en arrière parce que l'appareil policier répressif est là, l'appareil du parti est là, l'armée reste relativement unie. Donc il peut y avoir cette chose. En même temps, l'ampleur des manifestations qui continuent malgré les concessions de Moubarak montre qu'il y a une conscience chez, en tous les cas, la partie la plus combative des manifestants, que ça ne suffit pas, qu'il faut aller au-delà, qu'il faut vraiment créer une situation irréversible. Mais quand on dit une situation irréversible, irréversible par rapport à quoi? C'est-à-dire irréversible par rapport déjà aux droits d'association, aux droits d'organisation, etc. Il faut savoir que dans ces pays, l'UGTT est presque une exception. C'est-à-dire que malgré une caporalisation qui avait été menée à la fin de par Bourguiba dans ces dernières années, il y avait une vraie tradition ouvrière. En Égypte, le syndicat est caporalisé depuis 1952 et bien qu'il y ait eu des luttes locales, il n'y avait pas de syndicat. Donc la reconstruction d'un mouvement ouvrier puissant, la reconstruction de partis, etc., c'est ça l'enjeu. Mais je crois qu'on ne peut pas nier que ce qui est en train de se passer, c'est un bouleversement très important de toute la situation de Tunisie, de l'Égypte, du monde arabe.
D'autres questions?
Certes, il y avait un soulèvement en Tunisie, mais pour l'instant, ce n'est pas une révolution. Rien n'a changé complètement. Il y a juste un dictateur qui a été éjecté, quoi, c'est tout. Et puis, il y a une autre thèse, que d'ailleurs, Eric Rollo l'a dit, hein, c'est la politique de Bush et continue sous Barack Obama. Pareil, hein, en fait, c'est d'emmener la démocratie d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est indéniable, il y avait des dictatures, il y a des dictatures dans ces pays-là. Mais pour l'instant, l'Amérique les accompagne, c'est-à-dire les accompagne même au niveau de changement. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de mécontentement, il n'y a pas des soulèvements. Mais pour l'instant, même en Tunisie, ce n'est pas une révolution. Au sens marxiste du terme, ça n'a rien changé. Le régime n'a pas complètement changé. Il y a juste un premier ministre pendant 11 ans ou je ne sais pas combien d'années, il était premier ministre, il est toujours là. Voilà, je voulais savoir votre avis au niveau de l'Amérique qui a accompagné tous ces mouvements. Et en plus, on dit que tout ça, c'est fomenté par l'Amérique.
Écoutez, les États-Unis ont soutenu ces régimes d'abord, aussi bien Ben Ali que Moubarak, depuis le début. Mais ils ont pris conscience avec ces mouvements qu'il fallait essayer de trouver une porte de sortie. Et que finalement, si on avait un changement limité, ça serait conforme peut-être à leurs intérêts. En tous les cas, c'est plus conforme à l'intérêt que le maintien de dictature qui risque d'aboutir à une radicalisation plus grande. En même temps, je connais les liens de l'armée américaine avec l'armée tunisienne, avec l'armée égyptienne, etc. Moi, ce qui me frappe, d'une certaine manière, c'est que les États-Unis sont en partie impuissants. Il faut bien voir, la capacité à agir sur la politique intérieure d'un pays, elle n'est pas évidente. L'Amérique s'est affaiblie au Proche-Orient depuis 10 ans, son prestige s'est affaibli en Irak. Ils vont quitter l'Irak d'ici la fin de l'année. Ils sont incapables de trouver une solution, même bancale, au conflit israélo-palestinien. Le gouvernement pro-américain, Saad Hariri, qui était l'homme des Américains au Liban, a perdu le poste de Premier ministre. Ils ont énormément de difficultés.
Sans parler de l'Afghanistan.
Et aujourd'hui, en plus, il faut bien voir que, à l'égard de Moubarak, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, Moubarak tient un discours intérieur pour dire « l'opposition est soutenue par les Américains et les Israéliens ». Il tient un discours nationaliste. En même temps, il tient un discours nationaliste parce qu'il y a quelque chose quand même qui est, quand on y réfléchit une minute, qui est quand même ahurissant. Le président d'un pays, les États-Unis, explique qu'il faut que le président d'un autre pays, quoi qu'on en pense par ailleurs, s'en aille et qu'il s'en aille maintenant. Et ça ne choque personne. C'est-à-dire, on dit, ah, mais c'est bien, ils sont pour la démocratie, etc. C'est pas qu'il faut garder Moubarak, c'est pas du tout ça. Mais il y a une espèce d'arrogance comme ça. Et je me demandais, vous vous souvenez, en 2000, l'élection présidentielle américaine, avec Bush, fils, qui avait été pendant 2 mois contesté. Qu'est-ce qu'on aurait dit si le président égyptien avait envoyé des représentants aux États-Unis pour dire au Sénat, il faut pas voter, parce que c'est le Sénat qui a ratifié Bush, pour dire, non, il faut pas ratifier Bush, il faut ratifier le démocrate. Tout le monde aurait trouvé ça scandaleux. Donc il y a une arrogance, mais en même temps, il n'y a pas. C'est très difficile d'agir sur la politique intérieure d'un pays. Et si on prend l'Afghanistan, une des choses qui me frappe, c'est Hamid Karzai est l'homme des Américains. Ils l'ont mis en place. Il n'avait aucune base sociale. Aujourd'hui, il est président, et sur la moitié des choses, il dit non aux États-Unis, il fait une politique qui est la sienne. D'une certaine manière, nous sommes dans un monde où la possibilité qui existait du temps du colonialisme de dicter aux pays soumis « il faut faire ça » et ça n'existe plus. Ça peut avoir des aspects positifs, ça peut avoir des aspects négatifs, mais ça, c'est important. Donc il y a souvent, chez les gens qui lisent Le Monde diplomatique, une espèce de surestimation comme ça du rôle des États-Unis, qui voient les États-Unis derrière partout, qui finalement, chaque fois qu'il y a un changement, disent « ah, sur le fond, finalement, c'est un complot américain ». C'est un peu désespérant. Vous avez raison, c'est pas une révolution au sens marxiste, il n'y a pas un changement de régime social. En même temps, c'est quand même quelque chose qui crée les possibilités d'aller de l'avant. Et l'effondrement des dictatures dans le monde arabe, c'est un élément important sans lequel il n'y aura pas d'autres transformations. Mais après, bien sûr, il va y avoir des luttes sociales, il y a des, comme chez nous, il y a des courants politiques différents qui vont s'affronter, etc. Mais au moins, ils pourront s'affronter. Tandis que là, on était dans des situations où tout était totalement bloqué.
Amazir.
Qui s'appelle Barakat, qui veut dire ça suffit. Barakat Mesket, assez du silence.
Abarakat, abarakam, abarakat Mesket, abarakam, abarakat, abarakam. Barakat min mouladenham, barakat min dmir shbabenham, barakat min dbar biladenham, qti risan barakam, barakat shabat wafaq, baghir lazm w istafaq. البرجات والحنش بركم وحركاتكم ما هي حركم وبركات بركم وبركات مسكات بركم وبركات بركم وبركات مسكات بركم
Amazir Kateb. Merci. On continue avec un autre sujet signé de Maurice Lemoine, qui s'occupe généralement de l'Amérique latine. Mais là, je le disais en commençant, il a trouvé un lien entre l'Amérique latine et la Palestine. Ça va peut-être nous ramener à notre sujet essentiel d'aujourd'hui, concernant évidemment le Proche-Orient. Quel lien, Maurice, entre votre Amérique latine et la Palestine ?
Il y a de multiples liens. Alors d'abord, il y a le 3 décembre dernier, 3 décembre 2010, le président du Brésil, Lula, a remis une lettre au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans laquelle il déclarait « Le Brésil reconnaît l'État palestinien dans ses frontières de 1967 ». C'est le Brésil, puissance émergente, grand pays latino-américain. Et puis, ça a fait tache d'huile, puisque dans les semaines qui ont suivi, et jusqu'à tout récemment, l'Argentine, la Bolivie, l'Équateur, le Guyana, l'Uruguay, le Paraguay, le Chili, et le Pérou, et puis le 1er février dernier, le Suriname, ont reconnu l'État palestinien, de sorte qu'il y a aujourd'hui 13 pays d'Amérique du Sud qui reconnaissent l'État palestinien. Le seul qui ne l'a pas reconnu, c'est la Colombie. La Colombie qui est souvent surnommée en Amérique latine l'Israël de l'Amérique latine. Donc, il n'y a pas de surprise. Alors, ce n'est pas vraiment une nouveauté, puisqu'il y a déjà 4 pays qui avaient reconnu l'État palestinien lorsque, en novembre 88, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a annoncé la création de l'État palestinien. Hein. C'était Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, le Costa Rica, ça en 1988. Et il y a y compris eu un précurseur, puisque Cuba, dès 1974, avait un ambassadeur de l'OLP à La Havane. Alors c'est pas très surprenant de retrouver des pays comme Cuba, le Venezuela, la Bolivie, dans une confrontation d'une certaine manière avec Israël. Je rappelle qu'il y a eu un précédent qui a fait beaucoup de bruit, c'est en janvier 2009, lorsque le président vénézuélien, Hugo Chavez, a expulsé l'ambassadeur d'Israël, a rompu les relations diplomatiques avec Israël, qu'il a accusé d'avoir mis en œuvre une utilisation planifiée du terrorisme d'État contre le peuple palestinien lors de l'opération Plan Durci à Gaza. Et immédiatement, le président bolivien Evo Morales a fait la même chose, en fustigeant depuis La Paz le Conseil d'insécurité de l'ONU. Et là encore, d'ailleurs, Cuba avait été un précurseur, puisque Cuba a rompu les relations avec Israël en 1973, après la guerre de Yom Kippour. Il y a des contentieux en Amérique latine avec l'État d'Israël. Caracas, à La Paz, comme à La Havane ou à Managua, personne n'oublie la politique traditionnelle d'Israël en Amérique latine, qui souvent vient servir de supplétif aux États-Unis lorsque Washington, pour une raison ou pour une autre, préfère rester légèrement en retrait. Dans ce cas-là, c'est Israël qui prend le relais. Par exemple, en 1977... au Guatemala, qui était alors en plein conflit, un conflit terrible qui a fait 200 000 morts, lorsque le président James Carter dans le monde diplomatique, a suspendu les livraisons d'armes au Guatemala, c'est immédiatement Israël qui a pris le relais et qui a abreuvé la dictature. On pourrait multiplier les exemples d'interventions d'Israël en Amérique latine. Il y a eu par exemple en 1988 à Puerto Boyacá en Colombie, un ex-officier de Tsahal, c'est l'armée israélienne, Yair Klein, qui a entraîné avec d'autres mercenaires israéliens, mais en lien avec le gouvernement israélien, des paramilitaires colombiens. Et puis là encore, donc là je vous parle de 88, de Puerto Boyacá, mais en 2008, donc 20 ans plus tard, le ministre de la Défense colombien, Juan Manuel Santos, qui est l'actuel président, qui depuis est devenu président, à l'occasion d'opérations réussies de l'armée colombienne contre les guérillas, en particulier la libération d'Ingrid Betancourt, a clairement dit que l'armée israélienne aidait l'armée colombienne. Il a, si je reprends une des expressions exactes, le terrorisme se combat surtout et avant tout par le renseignement, et en la matière, Israël peut nous aider et apporter beaucoup. Et puis tout récemment, 2009, le coup d'État au Honduras, où les forces de police, des forces de répression honduriennes, lorsque le président Manuel Zelaya a été renversé, ont utilisé une technologie de pointe venant d'Israël. Alors un truc qui s'appelle, c'est un canon sonique de type LRAD. Alors LRAD en anglais, c'est Long Range Acoustic Device. C'est un truc qui émet un son strident et qui vous rend complètement fou. Et ça a été utilisé en particulier contre l'ambassade du Brésil dans laquelle était réfugié le président Zelaya. Et à l'heure actuelle, le président hondurien qui a été élu au terme d'élections illégitimes a comme service de sécurité une boîte de protection israélienne, un petit peu comme les officines dont parlait Olivier Piot, sud-africaine, qui s'appelle International Security Academy, l'ISA, et qui est dirigée par d'ex-officiers du Mossad, qui sont les services de renseignement israéliens. Donc évidemment, dans ces conditions, c'est pas surprenant de voir le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, la Bolivie reconnaître l'État palestinien. Bon, ça c'est pour les pays qui ont de bonnes raisons d'en vouloir à Tel Aviv. Et puis il y a évidemment, on parle du Brésil, on parle de l'Argentine, on parle du Pérou, c'est pas du tout la même configuration. Certains sont des pays d'une gauche modérée pour le Brésil, le Pérou est conservateur. Là, il y a autre chose. Là, il y a autre chose. Alors c'est vrai que déjà, il y a des différences entre eux, hein, puisque le Brésil, l'Équateur, la Bolivie et l'Argentine mentionnent explicitement dans la reconnaissance de l'État palestinien les frontières de 1967, c'est-à-dire avec la Cisjordanie, avec Gaza et avec Jérusalem-Est. Le Chili et le Pérou, qui sont quand même beaucoup plus proches des États-Unis, eux, évitent de rentrer dans ce genre de précision. Ils reconnaissent tout simplement. L'Équateur et le Venezuela sont des pays pétroliers, donc eux, ils ont des relations plutôt amicales et longues, de vieilles relations avec leurs partenaires arabes de l'OPEP. Donc là, il y a des relations qui se sont établies normalement. Vous avez ensuite le Brésil qui est une grande puissance émergente, qui aspire à un siège permanent au Conseil national de sécurité. Lui, il réaffirme son rôle, et en particulier, c'est la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire la bergère étant Barack Obama, puisque souvenez-vous que l'an dernier, en 2010, le Brésil, avec la Turquie, avait tenté une médiation dans la crise iranienne, et ils ont été vraiment traités comme, j'allais être grossier, avec beaucoup de dédain par Washington. Donc le Brésil réaffirme son rôle. Et puis, comme le Brésil, d'autres pays de la région ont des intérêts pour envoyer des signaux d'amitié aux pays arabes, parce qu'en particulier, depuis le premier sommet pays arabe, pays d'Amérique du Sud, qui a eu lieu en 2005, les échanges commerciaux avec les pays arabes et du Proche-Orient sont en train de se développer. Donc évidemment, ils n'ont absolument aucun intérêt à s'écarter de ce mouvement.
Donc Chavez devrait bientôt débarquer à Tunis.
On verra ça. Alors évidemment, il y a des surprises. Le Chili est très proche des États-Unis en particulier. Il était déjà à l'époque où on avait un gouvernement de centre-gauche, c'est-à-dire Parti socialiste, démocratie chrétienne au pouvoir avec Michel Bachelet. Maintenant, on a Sebastián Piñera, c'est la droite dure qui est revenue. Mais là, il y a des facteurs internes, on ne le sait pas beaucoup. Il y a une communauté palestinienne très importante au Chili d'environ 400 000 personnes, et donc qui pèse d'un poids réel. Et puis dans tous ces pays d'Amérique latine, il y a là aussi partout des communautés syro-libanaises, qu'on appelle los surcos en Amérique centrale, en Colombie, qui sont évidemment beaucoup dans le commerce et qui ont acquis un poids social et économique important, de sorte que dans les rapports internes, il faut tenir compte d'eux. Et puis pour un pays comme le Pérou, il est assez difficile de se maintenir à l'écart de ce mouvement d'ensemble des pays d'Amérique du Sud. Alors, vous alliez me poser la question, j'y réponds tout de suite, elle va nous faire gagner du temps. Il ne faut pas espérer de cette reconnaissance assez massive. D'ailleurs, l'Amérique latine n'est pas la seule. Il y a 90 ou 100 pays qui reconnaissent l'État palestinien. Il ne faut pas attendre de ça, je veux dire, un bouleversement des grands équilibres au Proche-Orient. Mais en même temps, on a un signe très très clair à la fois de l'isolement grandissant d'Israël. On a un signe de la volonté de l'Amérique latine de se définir comme puissance intégrée avec sa propre politique. Et puis c'est aussi une réprobation très très claire. C'est aussi une marque d'indignation devant la manière dont piétinent au Proche-Orient les négociations dites de paix. Et surtout l'inertie complice de Washington avec l'État d'Israël.
Voilà, merci Maurice Lemoine. On va demander à Amazia Kateb de finir. Je voudrais remercier Alain Grèche, Olivier Piot, Maurice Lemoine, les techniciens de Radio France, Philippe Etienne et Arthur Gerbeau, et bien sûr l'équipe de la Java qui chaque mois nous reçoit. Merci à tous.
Juste pour finir, en fait, parce que j'ai entendu un débat qui était super intéressant et qui m'a donné envie de rebondir, mais comme je ne suis pas un ballon, je n'ai pas rebondi. Donc voilà, je voulais juste profiter du fait que j'ai une plateforme d'expression à ma disposition qui s'appelle un microphone et une radio pour dire que le 12, il y a une marche à Alger et ailleurs en Algérie et qu'on va les foutre dehors, ces salopards. Voilà, merci.
Chante avec moi, Viens mon ami, assieds-toi près de moi. Chante avec moi, chante avec moi. Khnim aya wundiru tchaklala. Chante avec moi, chante avec moi. Contre les armées et les armadas. Chante avec moi, chante avec moi. Pour les enfants de l'intifada. Quand la justice est au malfrat et qu'on ne me laisse pas d'autre choix. Que d'être imparfait hors la loi, je suis plusieurs dans ce cas-là. Quand je souffre et qu'on le voit, et que ça fait partie du climat, que les gens se pressent autour de moi, je suis plusieurs dans ce cas-là. Chante avec moi, chante avec moi. Pour ceux qui ne veulent pas marcher au pas, chante avec moi, chante avec moi. Bism al-Hurriya al-Falastiniya.
Voilà, merci à tous. On n'a pas eu le temps de traiter le papier de Philippe Baquet, une florissante industrie de l'agriculture biologique. C'est pourtant passionnant, comme évidemment tous les autres papiers du diplôme de ce mois-ci. L'album d'Amazi Kateb, qui s'intitule Marché Noir, est sorti en octobre 2009. Merci à tous. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez aller faire un tour aussi sur là-bas.org, là-bas.org. On vous a mis une petite vidéo prise dans Arrêt sur Image qui est assez, qui est pas piqué des hannetons. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincé, Arnaud Chapat, Koy Nguyen et Franck Allerer ont réalisé cette émission. Assisté d'Agnès Lebotte et Marina Touillez, attend vos messages sur le répondeur de la base CGSP au 01 56 40 37 37. Réclame.
France Inter, partenaire de l'exposition Cranach et son temps, au musée du Luxembourg jusqu'au 23 mai. Les peintures à l'élégance raffinée de Lucas Cranach, artiste majeur de la Renaissance germanique, ses portraits et ses figures féminines d'une grande sensualité, sont réunis dans une exposition inédite en France. L'exposition Cranach et son temps, à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Sensuel et parfois franchement érotique, hein, Cranach. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis, je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
Devant les députés, François Fillon a défendu les conditions de son voyage controversé en Égypte. « J'ai respecté strictement toutes les vœux à l'étranger du Premier ministre », a dit le chef du gouvernement dans une ambiance houleuse. Jean-François Copé vient au secours du Premier ministre. Le patron de l'UMP se félicite du soutien unanime du parti majoritaire à François Fillon et dénonce une polémique à la fois agressive et excessive. Et puis Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement et compagnon de Michel Alliot-Marie, invite tous les politiques à dire s'ils ont eux-mêmes été invités lors de vacances à l'étranger. Patrick Ollier accompagnait la ministre des Affaires étrangères lors de son séjour en Tunisie. Nous avons répondu très clairement parce que nous n'avons rien à cacher, a-t-il précisé sur France Info et LCP. La quasi-totalité des tribunaux de France a voté le renvoi des audiences non urgentes. L'Union syndicale des magistrats appelle à la poursuite du mouvement jusqu'à lundi, alors que des manifestations sont prévues demain. Et les policiers de Libourne manifesteront, eux, cet après-midi pour défendre leur commissariat. Dans le cadre de la réorganisation des forces de l'ordre, les 69 policiers devront céder la place aux gendarmes. Ils seront réaffectés sur l'agglomération bordelaise. Ce matin, le préfet de la Gironde a même donné la date de la fermeture. Ce sera le 1er septembre. Écoutez la réaction de Christophe Gras, le délégué local du syndicat Alliance.
Je pensais qu'il y avait un espoir ou que le projet allait être gelé ou pour étudier tout ça, mais pas avec une date définitive au 1er septembre. Tout ce qu'on nous a dit auparavant, qu'on essaye de voir, en fait, non, c'était décidé au plus haut niveau. Ça reste inadmissible pour une ville comme Libourne qui compte 24 000 habitants et voilà, avec les moyens qu'ils vont avoir. Ben, on verra d'ici un an ce que deviendra Libourne. On a un commissariat où les 69 fonctionnaires sont motivés, travaillent bien, les chiffres parlent pour nous, la population est avec nous, la mairie est avec nous, et puis voilà, on ferme et voilà, on tourne la page alors que c'est un commissariat qui fonctionne bien. Les fonctionnaires sont sacrifiés, on est dégoûté, on va voir et se défendre jusqu'au bout.
Un propos recueilli par Pierre-Marie Gros. Les voyagistes français veulent relancer l'activité touristique en Tunisie, vitale pour le pays. Les touristes pourraient revenir dès le printemps. Suite au mouvement de révolte qui a entraîné le départ du président Ben Ali, les recettes du tourisme dans le pays ont chuté de 40% en janvier et le secteur représente 6,5% du produit intérieur brut de la Tunisie. Regain de violences policières dans le sud de l'Égypte. Au moins 3 personnes ont été tuées, une centaine blessées dans des affrontements dans la ville d'El Kargo à 500 km au sud du Caire. Hier, la police a tiré à balles réelles contre des manifestants. La foule en colère a mis le feu à 7 bâtiments officiels. Calm et Liès, en revanche, toujours au Caire, sur l'emblématique place Tahrir, où les manifestants ne relâchent pas la pression sur Hosni Moubarak. Les banques britanniques signent un accord avec le gouvernement. Elles s'engagent à accroître leurs prêts aux entreprises et à une plus grande transparence sur la rémunération de leurs dirigeants. Les banques promettent que le montant global des bonus sera inférieur à celui de l'an passé. Pour tenter de retrouver les jumelles suisses de 6 ans disparues depuis 10 jours, les autorités italiennes lancent un appel à témoins. Le père des fillettes s'est suicidé le 3 février en se jetant sous un train. Les enfants restent introuvables. À Marseille, le procureur a confirmé leur présence à bord d'un ferry entre Marseille et la Corse le 31 janvier sur la foi de 3 témoins.
Demain, dans Service Public.
On parle beaucoup en ce moment des auto-entrepreneurs. Alors est-ce une solution miracle comme le microcrédit pour sauver l'emploi? On peut en débattre tous ensemble sur franceinter.com.
Service Public avec Isabelle Giordano, du lundi au vendredi à 10h. Une autre manière de vivre ensemble.
France Inter présente Daphné, Bleu Venise.
Ce qui tombe sur la vie.
Concert complet le 7 février au Théâtre des Bouffes du Nord. Date supplémentaire le 25 mai au Trianon. Retrouvez Daphné et ses nouveaux titres dans le programme musical de France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, l'heure du carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Et bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Un film musical, puisqu'il est dansé, vient de sortir, Black Swan, et on en parle en bien, en mal, mais enfin, il y a beaucoup d'admiration en général. C'est une œuvre de Darren Aronofsky, avec une sublime Nathalie Portman. Il y a 5 nominations aux Oscars, et puis il y a déjà le Golden Globe, cette distinction qui a été attribuée à Nathalie Portman, qui est indiscutable en tout cas comme actrice, Vincent Cassel avec elle, Mila Kunis, et c'est l'occasion à mon avis de revisiter un tout petit peu le Lac des Cygnes, qui est en contre-champ de ce beau film, un ballet en 4 actes qui est tombé à plat lors de la première à Moscou au théâtre Bolchoï, mais qui a trouvé son chemin par la suite et qui est devenu une œuvre absolument incontournable. Alors, l'idée, c'est dans un parc, il y a un somptueux château et on fête le 21e anniversaire du prince Siegfried, et on voudrait bien le marier, mais lui il ne veut pas, il préfère aller à la chasse avec ses copains. Néanmoins, il y a une scène d'entrée avec un thème au hautbois qui est tout à fait sublime. C'est vraiment emblématique de ce ballet. Voici cette presque introduction. C'est le deuxième morceau, très souvent, c'est ce qu'on place en second, mais c'est vraiment ce qui nous bouleverse peut-être le plus.